pour Antenne VOA Afrique. Au revoir.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, il est 18h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 31 mars 2022. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. La Cour suprême du Kenya invalide le projet de révision constitutionnelle du président Uhuru Kenyatta. En Guinée, l'ex-premier ministre Ibrahima Kassori Fofana devient le patron du RPG, parti de l'ancien président Alpha Condé. Libération de 5 employés de MSF au Nigeria enlevés il y a un mois au Cameroun. Les autorités ukrainiennes envoient 45 bus pour évacuer des civils à Mariupol après l'annonce d'une trêve par Moscou. L'administration Biden annonce un plan pour puiser jusqu'à 1 million de barils par jour dans les réserves stratégiques de pétrole des États-Unis. Après le journal, ce sera la Minute Éco et les sports. Au Kenya, la Cour suprême a invalidé ce jeudi un processus de révision constitutionnelle initié par le président Uhuru Kenyatta. Le projet visait à rendre la politique plus inclusive, selon lui. Les précisions avec Mohamedou Oumfa.
Le président ne peut pas initier des amendements ou des changements constitutionnels par la procédure de l'initiative populaire, a déclaré Martha Koome, la présidente de la plus haute juridiction du pays. Dans leurs exposés respectifs, 6 des 7 magistrats ont estimé que le chef de l'État n'avait pas le droit de lancer cette révision selon cette procédure réservée aux citoyens. L'amendement constitutionnel de 2020 est inconstitutionnel, en a conclu Madame Koome après la lecture de quelques 1500 pages d'arguments. Pour Uhuru Kenyatta, cette révision visait à rendre la politique kenyane plus inclusive. En plus de créer un poste de premier ministre, 2 de vice-premier ministre et 1 de leader de l'opposition, le projet proposait d'augmenter le nombre de parlementaires en le faisant passer de 290 à 360. Les détracteurs du projet, dont le vice-président William Ruto, y voyaient un stratagème du chef de l'État pour se maintenir au pouvoir en tant que premier ministre après son deuxième et dernier mandat qui s'achève en août.
En Guinée, le parti de l'ancien président Alpha Condé a choisi l'ex-premier ministre Ibrahima Kassori Fofana pour diriger le RPG au terme d'une convention extraordinaire ce jeudi à Conakry. Le point avec notre correspondant Zakaria Camara.
6 mois après le départ de son champion, le RPG arc-en-ciel se réorganise. Plus de 300 délégués ont validé ce jeudi à Conakry les décisions relatives au bon fonctionnement du parti et à la mise en place d'un comité exécutif provisoire. Les délégués ont porté leur choix sur l'ancien premier ministre Ibrahima Kassori Fofana. Il occupe désormais le poste de président de l'organe exécutif provisoire du parti. Le nouveau patron de l'exécutif du RPG arc-en-ciel promet de rassembler les Guinéens. Il propose d'organiser des assises au niveau des bases pour tirer les leçons, selon ses mots, des 10 ans de gouvernance d'Alpha Condé. Notre parti a commis des erreurs. Nous nous devons de les assumer, a déclaré Kassori Fofana, qui a aussi annoncé que son parti entend participer à la gestion de la transition et se dit prêt à discuter des questions liées au calendrier de la transition, au fichier électoral et à celles liées à la Constitution. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Au Burkina Faso, des concertations sont en cours pour le transfert de l'ex-président Rochmar Christian Kabore, maintenu en résidence surveillée depuis le putsch de janvier, a annoncé le porte-parole du gouvernement de la transition. Des concertations se poursuivent en vue d'aboutir au retour de M. Kabore dans une résidence familiale de son choix, garantissant sa sécurité, a déclaré lors d'une conférence de presse Lionel Bilgo. Sa libération n'a pas été évoquée. Au Mali, le ministre de la Défense, Sadio Camara, a réceptionné hier soir de nouveaux équipements militaires, dont 2 hélicoptères de combat livrés par la Russie. Les équipements réceptionnés sur la base militaire de l'aéroport de Bamako sont composés d'hélicoptères de combat, de radars de dernière génération et de beaucoup d'autres matériels nécessaires dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, indique l'armée sur son site web. 5 employés de Médecins sans frontières ont été libérés au Nigeria. Ils avaient été enlevés il y a un mois par des hommes armés dans le nord du Cameroun. Le point avec Gini Kampumbumvila.
5 employés de Médecins sans frontières, une franco-ivoirienne, un sénégalais, un tchadien et 2 gardes de sécurité camerounais ont été libérés au Nigeria. Ils ont été emmenés en lieu sûr, a précisé l'ONG, sans révéler les circonstances de leur libération. Nous sommes heureux de retrouver sains et saufs nos collègues, a réagi Stéphane Corniche, directeur général de MSF. Les anciens otages ont été enlevés par des hommes armés qui s'étaient introduits au domicile de MSF dans la nuit du 24 au 25 février à Fotokol, près de la frontière avec le Nigeria, une région où Boko Haram et le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest restent actifs. Au moment de l'enlèvement, un responsable camerounais qui avait requis l'anonymat avait déclaré que rien ne permettait de lier cet acte aux attaques de Boko Haram et nous ne savons pas non plus si c'est un simple vol qui aurait mal tourné.
5 militants du parti de l'opposant camerounais Maurice Kamto, condamnés en 2020 pour insurrection, ont été libérés de prison, ont indiqué leur avocat et un responsable du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ces militants avaient été arrêtés le 22 septembre 2020, alors que le MRC et d'autres partis projetaient des marches contre le régime du président Paul Biya au pouvoir depuis 39 ans.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Ukraine, une nouvelle tentative d'évacuer les civils bloqués à Mariupol se met en place. Le comité international de la Croix-Rouge se dit prêt à diriger cette opération sous certaines conditions. Le point avec Nani Talani.
Il est vital que ces opérations puissent avoir lieu. Les vies de dizaines de milliers de personnes à Mariupol en dépendent, selon le CICR, qui dit espérer les lancer dès demain vendredi. Moscou a annoncé un cessez-le-feu local pour ouvrir un couloir humanitaire avec la participation directe du HCR et du CICR. Kiev a dépêché 45 bus pour évacuer des civils de Mariupol vers la ville de Zaporijjia au nord-ouest. 17 bus sont déjà partis pour Mariupol, selon la vice-première ministre ukrainienne Irina Verekchuk. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé ce jeudi par vidéo au Parlement australien et néerlandais, leur demandant des armes et qu'ils cessent d'acheter des hydrocarbures russes. Zelensky a déclaré que son armée se prépare à de nouveaux combats dans l'Est et qu'il n'accorde aucune foi aux promesses de la Russie de réduire son dispositif militaire vers Kiev. La Turquie annonce qu'une nouvelle rencontre entre les négociateurs russes et ukrainiens pourrait avoir lieu d'ici une ou deux semaines. Le négociateur ukrainien David Arakamia a indiqué hier que des pourparlers en ligne avec la Russie vont reprendre vendredi.
L'armée russe est en train de se regrouper en vue de nouvelles attaques en Ukraine, ont estimé Kiev et l'OTAN ce jeudi. Moscou entend renforcer son offensive sur la région du Donbass tout en maintenant la pression sur Kiev et d'autres villes, a estimé le secrétaire général de l'Alliance Atlantique Jens Stoltenberg. Le Pentagone avait déjà constaté ce repositionnement hier. Washington a annoncé de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie visant le secteur technologique, dont le plus important fabricant russe de semi-conducteurs. La Russie a annoncé de son côté interdire l'entrée sur son territoire aux dirigeants européens et à la majorité des eurodéputés. La Russie menace de couper l'approvisionnement en gaz aux pays qui refuseraient de payer en rouble dès demain, le 1er avril. Les pays européens continueront de payer le gaz russe en euros et en dollars comme cela est écrit dans les contrats, a répondu le chancelier allemand Olaf Scholz à Vladimir Poutine. Le président américain Joe Biden a ordonné de puiser 1 million de barils par jour dans les réserves stratégiques de pétrole pour 6 mois, une initiative sans précédent dans l'histoire des États-Unis. Pour tenter de juguler la flambée des prix à la pompe, a annoncé la Maison-Blanche. Le point avec Eric Manirakiza.
La perspective de puiser dans les immenses réserves de pétrole américaines a fait déjà baisser les cours jeudi à Londres comme à New York d'environ 5%. Cette initiative doit, selon un communiqué de la Maison-Blanche, servir à faire la transition jusqu'à ce que la production américaine augmente en fin d'année. Le président va invoquer le Defense Production Act, un texte hérité de la guerre froide et qui lui permet de prendre des décisions économiques par décret pour encourager le développement des énergies vertes. L'administration américaine utilisera les revenus tirés de la vente de ses réserves pour reconstituer des stocks dans les années à venir. La Maison-Blanche promet de faire tout ce qu'elle peut pour encourager l'extraction sur le territoire américain. Joe Biden demande désormais au Congrès d'imposer des amendes aux entreprises qui disposent des permis et des terrains nécessaires, mais qui ne les exploitent pas.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
La République démocratique du Congo a perdu au moins 6,3 milliards de dollars entre 2011 et 2020 à cause des exonérations douanières souvent injustifiées selon un rapport du groupe d'études sur le Congo. Cette situation concerne surtout les mines considérées comme le moteur de l'économie et des entreprises publiques ou appartenant à des personnalités politiques. Les producteurs de pétrole de l'OPEP ont annoncé ce jeudi une nouvelle ouverture modeste de leurs vannes, ignorant les appels à alléger la pression sur les prix causée par la guerre en Ukraine. Les 13 membres de l'OPEP et leurs 10 alliés ont convenu d'ajuster d'une légère hausse la production mensuelle de 432 000 barils par jour pour le mois de mai. Pour terminer, la demande de gaz naturel liquéfié devrait presque doubler pour atteindre 700 millions de tonnes d'ici 2040, a déclaré Shell. Le commerce mondial de gaz naturel liquéfié en 2021 avait augmenté de 6% en glissement annuel pour atteindre 380 millions de tonnes.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Le président de la Fédération algérienne de football, Sharaf Eddine Amara, a démissionné ce jeudi après l'élimination des Fenech face au Cameroun, brisant le rêve des Algériens d'aller à la Coupe du Monde au Qatar. L'élimination a été comme la fin d'un rêve. 10 secondes nous ont séparés de notre rêve. C'est le football, parfois il est cruel, a expliqué M. Amara. La FAF a annoncé sur son site officiel l'introduction d'un recours auprès de la FIFA et demandé à faire rejouer le match à cause de l'arbitrage qu'elle qualifie de scandaleux du Gambien Bakary Gassama. Toutefois, le président de la Fédération algérienne de foot a estimé que les chances de rejouer le match sont faibles et qu'il ne veut pas vendre des illusions aux supporters algériens. Le Cameroun s'est qualifié pour sa 8e Coupe du Monde en battant l'Algérie 2-1 après prolongation, avec un but à la dernière seconde de Karl Toko Ekambi, mardi à Blida. La star égyptienne Mohamed Salah sème le doute sur son avenir en équipe nationale. Dans une vidéo publiée sur Facebook par le ministère égyptien de la Jeunesse et des Sports, le capitaine des Pharaons s'adresse à ses camarades peu après l'élimination des Pharaons. « Je suis fier d'avoir joué avec vous, c'était un honneur pour moi », déclare-t-il pendant un débriefing du match dans les vestiaires. Ses déclarations à l'imparfait ont semé le doute sur son avenir avec l'équipe nationale. Mardi, les Pharaons ont échoué à se qualifier pour le Mondial au Qatar en cédant face au Lion sénégalais de la Teranga après la séance de tir au but. Salah, premier tireur égyptien, a manqué sa tentative. Le 7 février, l'Égypte a perdu la finale de la CAN contre les Sénégalais au tir au but. Salah, qui aura 30 ans au mois de juillet, a débuté en équipe nationale en 2011. Ici, en NBA, Miami, vainqueur à Boston 106-98 dans le choc à l'Est, est la première équipe de cette conférence à assurer sa présence en play-off. Le Heat consolide sa place de leader devant Milwaukee, deuxième. Toronto est sixième après sa 4e victoire d'affilée, 125-102 aux dépens de Minnesota, 7e à l'ouest. Dans la lutte pour les barrages, New York, 11e, a peut-être perdu tout espoir après sa défaite 125-114 à domicile. Face à Charlotte, Atlanta s'est imposé 136-118 à Oklahoma City. À l'ouest, les Suns, incontestables leaders, ont joué un vilain tour aux Warriors avec un succès 107-103. Dallas a gagné 120-112 à Cleveland. Déjà qualifié, Memphis a assuré son statut de tête de série numéro 2 en s'imposant sur le fil 112-111 à San Antonio. La Nouvelle-Orléans a consolidé sa 9e position en allant gagner à Portland 117-107. La grosse performance de Nikola Jokic, 37 points, 13 rebonds et 9 passes décisives, a aidé Denver 6e à battre Indiana 125-118.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, le ministre de l'économie Jean-Marie Kalumba, visé par une motion de défiance, a été destitué par l'Assemblée nationale, qui est contrôlée par l'Union sacrée de la République, dont il fait partie. Eddy Issango a joint à Kinshasa l'auteur de la motion, le député national Crispin Mitono.
Nous avons adressé une motion de défiance contre le ministre de l'économie nationale avec 70 députés. Nous avons obtenu le vote de 277 voix pour la motion et 79 voix contre la motion. La motion est passée. Le ministre est réputé démissionnaire conformément à la constitution de notre pays et au règlement intérieur de l'Assemblée nationale.
Vous êtes l'initiateur de la motion. Qu'est-ce que vous reprochez exactement à ces ministres de l'économie de
tout
la République?
Nous sommes initiateurs de la motion. Nous reprochons au ministre la violation des codes de conduite de l'agent public de l'État lorsque le ministre passait dans les réseaux sociaux et dans les médias en train de distribuer les billets de banque aux enfants mineurs de moins de 18 ans. Et nous les reprochons encore les non-maîtrises des prix sur le marché. Ils ne maîtrisent pas le prix des biens et services sur le marché, principalement le produit des premières nécessités. C'est pourquoi nous avons demandé à ce qu'ils puissent quitter le gouvernement. Il est incompétent, il est incapable de maîtriser la structure des prix sur le marché. Nous reprochons au ministre d'avoir exporté des millions de dollars des contribuables congolais vers la Namibie pour aller pêcher le poisson en Namibie au moment que la République démocratique du Congo a plusieurs lacs poissonniers. Alors nous disons comment vous pouvez amener autant de millions en Namibie au moment que nous avons des pêcheurs congolais qui peuvent pêcher des poissons dans nos lacs et puis nourrir la population congolaise. La façon dont le ministre a envoyé cet argent en Namibie, c'est une façon un peu frauduleuse, c'est une procédure qui ne respecte pas les lois et règlements de notre pays. C'est pourquoi nous avons dit que cet argent a été détourné et que le ministre doit rendre les tabliers.
Vous êtes de l'UNC qui fait partie de l'Union sacrée, la plateforme qui est derrière le président Félix Tshisekedi, comme les ministres de l'économie. Mais que devient alors l'Union sacrée?
Dans l'Union sacrée, ce n'est pas comme dans l'FCC où il y avait une autorité morale qui donnait des ordres à toutes les institutions. Ici, dans l'Union sacrée, on respecte la séparation des pouvoirs. L'Assemblée nationale contrôle l'exécutif et sanctionne l'exécutif. Donc, c'est vraiment la démocratie dans l'Union sacrée.
C'était le député national congolais Crispin Mitono.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Goma sur 96.2 FM.
Au Cameroun, les prix des denrées de base ont augmenté, comme la baguette de pain, à cause de la rareté de la farine de blé affectée par la guerre en Ukraine. Dans sa petite boulangerie à Yaoundé, Guy Marcel Nganta fait du pain made in Cameroun à base de produits locaux comme les patates douces, le manioc ou le maïs, ce qui lui permet de vendre à des prix défiant toute concurrence. Nani Talani nous en dit plus.
Guy Marcel Nganta, avec un grand chapeau sur la tête, fait du pain depuis 13 ans à Yaoundé avec de la farine de patates douces, de manioc ou de maïs. Une aubaine pour ce petit boulanger, comme la guerre en Ukraine a rendu plus difficile l'approvisionnement en blé. Rien ne signale de l'extérieur sa petite boulangerie. Quatre murs en parpaings surmontés d'un toit de tôle ondulé en contrebas d'une route du quartier populaire de Kondogo. Une douce odeur sucrée s'échappe d'un petit four. L'artisan pétrit, malaxe et moule des pains réalisés uniquement à base de denrées made in Cameroun. Guy Marcel Nganta explique.
De l'eau glacée, sans laquelle on ne peut pas obtenir un bon plan. Et là, en ce moment, nous façonnons donc ce pain qui est fait à base de farine et de patates. Il est enrichi et également aux différents légumineux pour apporter une alimentation assez sensible à la nutrition de la population.
Cela fait 13 ans qu'il pétrit ce pain, pas comme les autres. Il travaille uniquement sur commande et depuis quelques semaines, il travaille beaucoup plus. Le pain de ce boulanger âgé de 44 ans a le même aspect que celui fait avec de la farine de blé. Mais il est plus lourd et plus consistant et le goût est légèrement sucré. Le boulanger présente son pain.
Nous avons là le pain de patate, le pain de manioc, le pain de maïs et le pain de manioc et en même temps le légumineux, le pain enrichi aux légumineux. Il faut retenir que toutes ces matières premières, toutes ces farines enrichies sont cultivées ici dans le Cameroun, dans le pays.
Guy Marcel Nganta assure gagner pour chaque baguette entre 50 et 60 francs CFA quand celle du blé n'en rapporte que 40. Le prix de 50 kg de farine de blé est passé de 19 000 francs CFA en 2021 à 24 000 francs CFA aujourd'hui contre 20 000 francs CFA pour la farine de patate douce et 17 500 francs pour le manioc. Ses concurrents vendent le pain plus cher à cause de l'inflation du prix du blé, mais aux grandes dames des consommateurs. Madeleine Gwent, enseignante, exprime sa déception.
Nous souffrons au pays. Et tout, il y a tout au pays. Mais nous, on souffre. On souffre. Le Cameroun est riche. Le panier d'aménager, c'est la magie. Regardez vous-même. Regardez. Regardez. Ça, c'est quoi ça? C'est le pain ici. Ça, c'est 50 francs. Non, 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 c'est gros. C'est gros, ils sont cachés.
Depuis le début de la guerre en Ukraine, la demande a plus que doublé, passant d'une vingtaine à une cinquantaine de clients. Le gouvernement camerounais avait institué le prix de la baguette à 125 francs CFA depuis 13 ans. Depuis le 16 mars dernier, il est passé à 150 francs CFA, soit près de 20% plus cher, provoquant mécontentement et inquiétude chez les consommateurs qui disent être pris dans un engrenage à l'inflation alors que les salaires n'ont pas changé. Le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, a annoncé que la crise en Ukraine aura des impacts au Cameroun car 50% des importations de blé dépendent de la Russie et de l'Ukraine.
Le président tunisien Kais Saied a dissous hier le Parlement 8 mois après l'avoir suspendu pour s'arroger les pleins pouvoirs en juillet 2021. Quelques heures avant cette mesure, des députés avaient bravé la suspension en organisant une séance virtuelle au cours de laquelle ils ont voté pour annuler les mesures exceptionnelles décidées depuis par le président. Pour une analyse, Eric Manirakiza, adjoint à Tunis, la journaliste Frida Damani.
On a deux légitimités qui s'affrontent. Kais Saied qui dit « je suis légitimé par les urnes et j'ai été désigné par le peuple » et les députés qui disent « nous aussi, on a été désigné par le peuple ». Donc depuis hier, le président a décidé de dissoudre la Constitution, seulement sa manière de faire n'est pas constitutionnelle. Parce que la Constitution en Tunisie ne peut être dissoute que si l'Assemblée refuse par 3 fois d'adopter ou d'adouber ou de donner son accord sur la création d'un gouvernement, sur sa composition. Or, ce n'est pas le cas. Donc, Kais Saied est en dehors des clous et sur tout ça se construit actuellement donc une zone de flou. On est dans le brouillard, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Kais Saied compte, lui, toujours tenir sa feuille de route, c'est-à-dire le 25 juillet, il va faire un référendum en proposant un contenu et des amendements à la loi électorale et à la Constitution. Seulement, il nous a servi encore aucun texte. On ne sait pas quelle orientation va avoir le cœur de ce référendum. Et il y aurait des élections législatives le 17 décembre 2022. La date a été très malheureusement choisie puisque c'est aussi la finale de la Coupe du Monde. Mais bon, on peut garder ça comme une anecdote. Normalement, en ayant accepté de dissoudre la Constitution, Kais Saied reconnaît qu'il a commis un coup d'État le 25 juillet, à part que le cycle de ce coup d'État a mis 8 mois à dire son nom. et il ne veut pas appeler à des élections, comme le prévoit la Constitution, entre 45 et 90 jours. Donc nous sommes dans, encore une fois dans cette période de brouillard où c'est le pouvoir qui est tenu par un seul homme qui pose problème.
Qui peut arbitrer aujourd'hui ?
Personne. Il faut des gens de bonne volonté. Le gros problème, et là on l'a testé à plusieurs reprises, c'est que Kais Saied ne veut entendre personne, ne fait confiance à personne et il le déclare lui-même, c'est qu'il ne travaille qu'avec la miséricorde de Dieu et en son âme et conscience. On est dans un cas très borderline de ce côté-là.
À qui profite son chaos ?
À personne pour le moment, parce que la Tunisie est dans une condition de précarité économique très grave. Nous avons une pénurie des biens alimentaires de première nécessité, que ce soit les pâtes, le riz, la farine. Les gens font la queue devant les boulangeries pour acheter du pain. Les minotiers ne fournissent plus la farine aux boulangeries parce qu'il n'y en a pas. Il y avait une promesse de la part de Kais Saied de prendre soin des gens qui sont dans la précarité, des pauvres gens, de ces classes sociales qui étaient déconsidérées par tout le système. Et aujourd'hui, il s'avère qu'au bout de 9 mois, il n'y a rien qui a été fait. Ils vont avoir, pour là, dans 2 jours commence le mois saint de Ramadan, les gens vont avoir 2 aides. À hauteur d'un global de 120 dinars. 120 dinars, c'est l'équivalent de 40 dollars. 40 dollars, c'est rien. Le plein de ma voiture est actuellement au-dessus de cette somme-là pour vous donner une approximation du montant des aides que vont avoir certaines familles. Et ce sont des familles nombreuses. Et c'est terrible pour la Tunisie. C'est un pays qui est jeune, c'est un pays qui pourrait être actif, mais qui n'a pas eu de chance dans le choix de ses dirigeants.
Notre consoeur Frida Damani était jointe à Tunis. Le président américain Joe Biden a exhorté les législateurs à approuver des dizaines de milliards de dollars pour lutter contre le coronavirus, dont 5 milliards destinés à la réponse mondiale de l'Amérique à la pandémie. Monsieur Biden, qui a reçu sa 2e injection de rappel hier, a averti que ne pas obtenir ce financement signifierait un recul pour les États-Unis et le monde. Un reportage d'Anita Powell, récit de Yacouba Ouedraogo.
Les Américains peuvent penser qu'ils en ont fini avec la pandémie, a déclaré le président Joe Biden en retoussant une manche mercredi pour recevoir sa 2e dose de rappel.
Ça n'a pas fait trop mal.
Mais cela est loin d'être la réalité, avertit le président américain. Joe Biden a demandé au Congrès un financement de 5 milliards de dollars pour la réponse mondiale à la pandémie, et plus pour les tests COVID-19 et les vaccins à domicile.
Congrès, nous devons sécuriser un approvisionnement supplémentaire maintenant. Nous ne pouvons pas attendre de nous retrouver au milieu d'une autre poussée. Il sera trop tard. Et nous avons aussi besoin de ce financement pour poursuivre nos efforts pour vacciner le monde. Ce sont des engagements que nous avons pris. C'est essentiel pour nous protéger contre de nouveaux variants. Il n'y a pas de mur que vous puissiez construire aussi haut pour empêcher un virus d'entrer.
Alors que de nombreux Américains envisagent prendre leur 2e injection de rappel, une dose de protection supplémentaire est disponible maintenant pour les Américains âgés de plus de 50 ans. Mercredi, les hauts responsables de la santé mondiale ont tiré la sonnette d'alarme sur le fait que la pandémie reste une menace mondiale, car de nombreuses personnes n'ont pas encore reçu de première dose de vaccin. Le docteur Bruce Aylward est conseiller principal du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé.
Nous ne souscrivons pas à l'idée qu'il devrait avoir une norme différente pour les habitants des pays riches par rapport aux autres. Si nous en avons besoin pour les pays à revenus élevés, moyens et supérieurs, nous en avons besoin pour tout le monde.
Cette inégalité a été particulièrement grave dans les pays en développement, où le manque de vaccins et de traitements a contraint les gouvernements à imposer d'autres mesures pour tenter d'arrêter la propagation du virus. L'Agence des Nations Unies pour l'enfance prévient que 147 millions d'enfants ont manqué plus de la moitié de leurs cours pendant les 2 dernières années en raison des perturbations liées à la pandémie. Et dans un contexte de reconfinement croissant dans des pays comme la Chine, les groupes de défense des droits de l'homme disent craindre que certains gouvernements utilisent la menace virale pour réprimer les libertés. Agnès Kalama, secrétaire générale d'Amnesty International.
2021 aurait dû être une année de guérison et de récupération. Au lieu de cela, il est devenu un incubateur d'inégalités plus profondes et d'une grande instabilité, un héritage caustique pour les années à venir.
Selon le président Biden, les 2 dernières années ont été une bataille mondiale contre ce virus. Et bien que de nombreux Américains pensent que le pire est derrière nous, pour des centaines de millions de personnes dans le monde, le combat continue.
C'est la fin de cette édition. À la technique, c'était Georges Léonard Sagnot. À la présentation, Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission sur voaafrique.com. Très bonne soirée à toutes et à tous et bon courage.